Bonjour. Merci beaucoup pour le temps qu'on vient de passer ensemble. C'est toujours un privilège de pouvoir, à travers la louange, à travers la prière, en famille, s'exprimer notre reconnaissance, notre amour, notre compréhension de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans notre vie. Et ce matin, on va continuer à approfondir la parole du Seigneur, à approfondir la pertinence de la parole dans notre vie. La semaine dernière, on a abordé un sujet que je trouve vraiment intéressant et en même temps très, très, très pratique pour chacune de nos vies. On avait été dans Éphésiens chapitre 4. Et puis, dans ce passage-là, c'est très intéressant dans la façon dont Paul, dans la façon dont il aborde l'Église, il aborde les chrétiens. Dans la première moitié de la lettre aux Éphésiens, à l'Église d'Éphèse, il adresse vraiment l'identité du croyant. Qui on est en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel dans la vie d'une personne lorsqu'elle met sa confiance en Jésus-Christ? Et dans la deuxième moitié, bien, il explique maintenant cette nouvelle société-là que Dieu a créée, cette nouvelle communauté-là, cette nouvelle façon de vivre-là, de quelle façon elle s'exprime d'une façon concrète dans le monde d'aujourd'hui. Okay? Et puis, arrivé au chapitre 4, on est au tout début de cette nouvelle section-là dans la lettre, où est-ce qu'il adresse maintenant, avant ce que vous êtes maintenant, voici ce que vous êtes dans la façon dont ça va s'exprimer dans le monde. Et on est là, et Paul adresse le corps, qui est l'Église. Et il dit, vous êtes maintenant un corps, vous êtes unis en Jésus-Christ, vous êtes les enfants de Dieu. Et il dit que Dieu a donné à ce corps-là des hommes, a donné des dons, et que Jésus-Christ coordonne toutes choses. Et le but de tout ça, c'est vraiment l'édification du corps. C'est vraiment que tout vienne ensemble et arrive à la maturité. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Hein? À partir du verset 11, il dit qu'il a donné les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, il y a l'élément dans ça que chaque partie du corps exerce le ministère. Et Dieu a donné des gens au corps afin de le perfectionner, afin de l'équiper et pour que ce ministère-là prenne place et que le corps soit édifié. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi et la connaissance du Fils de Jésus-Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il dit, le fait d'être édifié, le fait de s'apporter la vérité, le fait d'être ensemble, de se laisser édifier, on va venir à la maturité, on va arrêter de se laisser séduire par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes de philosophies, de toutes sortes de pensées. Et on sait, dans un monde comme aujourd'hui, des pensées, des philosophies, des approches, des façons de voir les choses, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Et depuis que le Québec a vraiment mis de côté la religion, ben les gens cherchent une façon d'exprimer, de vivre leur spiritualité et il y a toutes sortes de choses qui émergent. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis, le Seigneur nous dit, à force qu'on va grandir, on va arrêter de se laisser influencer par ces fausses doctrines-là, par toutes ces pensées-là, et on va s'affermir dans la foi. Mais l'élément central dans tout ça, pour que tout ça se produise, on avait vu que c'était au verset 15. « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons en tout égard à celui qui est le chef, Christ. » Oh, ramène celui de la semaine passée, Maurice. Donc, on avait vu en celui qui est le chef, Christ, en s'apportant la vérité dans l'amour. C'est le moyen qui va faire en sorte qu'on va croître en Christ. C'est quoi ça veut dire, ça, s'apporter la vérité avec amour? On avait vu s'apporter Jésus-Christ. Parce que quand on continue un petit peu plus loin, verset 21, ça dit ceci, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. » Qui est la vérité? Elle est où la vérité? Elle est en Jésus-Christ. Donc, s'apporter la vérité avec amour, c'est pas un slogan pour dire, comme on avait vu, « Ben, j'ai quelque chose de difficile à te dire, mais il faut que je te le dise pour ton bien. » Souvent, se faire dire la vérité avec amour, c'est comme ça qu'on le comprend. J'ai quelque chose de difficile à te dire parce que j'aimerais mieux pas avoir à te le dire. Mais là, il faut que je te le dise. Puis là, ben, on va adresser un élément dans la vie de la personne qui a à corriger ou qui a à améliorer ou peu importe. Donc, c'est souvent un slogan comme ça qu'on utilise. Mais en réalité, ce qu'il veut dire, c'est s'apporter Jésus-Christ et avec amour. Mais c'est quoi s'apporter Jésus-Christ? On en a parlé la semaine passée. Est-ce que cette semaine, vous avez apporté Jésus-Christ à quelqu'un? Parce que c'est concret. C'est concret. S'apporter Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est par qui tout peut passer. Il faut qu'on s'apporte Jésus-Christ. Donc, cette semaine, de quelle façon vous avez apporté Jésus-Christ autour de vous? Ou peut-être même à vous-même. C'est une question. OK? Bonne discussion avec les enfants? Ouais, mais c'est vos enfants pareil. Mmh. Oh oui. C'est intéressant ce que tu parles parce que c'est à travers ce que l'on vit, ben de quelle façon Jésus-Christ vient faire la différence dans ce qu'on vit. Et on voit Jésus-Christ vivre de cette façon-là, à travers nos situations, à travers Jésus, il a marché sur la terre, il était homme, il a vécu ce qu'on a vécu. Et de voir comment est-ce que Jésus peut faire la différence dans ce que je vis maintenant. Et on a le choix, comme tu dis, de regarder à Jésus ou non. Ben, c'est un petit peu mon son, Maurice, s'il te plaît. Quelqu'un d'autre, de quelle façon vous avez vécu ou apporté Jésus à quelqu'un cette semaine, ou à vous-même? Jesus case, okay? C'était pas vrai. Il s'est fait prendre au jeu. En voulant démolir la foi, il s'est rendu compte que... OK. Et que c'est ton beau-frère qui est en train d'écouter ce vidéo-là, là. Wow. Jésus s'est... Fait que tu lui as fait un pain dans le but d'aller lui présenter que Jésus, c'est le pain de vie. J'aime vraiment ça. Parce que, écoutez, on est là pour proclamer les vertus de Dieu. Une façon concrète de le faire, c'est de dire, ben, Jésus, c'est qui? Bon, ben, c'est le pain de vie. De quelle façon je peux représenter que Jésus, c'est le pain de vie autour de moi? Ben, je vais faire un pain, puis je vais apporter du pain. Hein? Une autre façon, c'est Jésus-Christ, il restaure, c'est un restaurateur. Mais de dire, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans le monde autour de moi que je pourrais contribuer à restaurer? Il y a des églises, il y a des groupes de quartiers, ils se sont mis ensemble, et puis ils ont marché dans le quartier en cherchant des places, des choses qui auraient à réparer. Dans les parcs, les clôtures des voisins, ou peu importe. Et ça l'a amené à tout un mouvement missionnaire dans leur quartier. Ils ont nettoyé des cours, ils ont réparé des clôtures, ils ont fait toutes sortes d'affaires, un peu comme j'aime mon voisin d'une certaine façon. Mais le but de ça, c'est de dire, regarde, il faut que j'incarne Jésus-Christ, que je proclame ses vertus, qui il est, et de quelle façon je peux l'exprimer dans mon quotidien. Fait que c'est vraiment bon, Richard, merci. On a l'occasion, s'apporter Jésus-Christ, ça fait toute la différence. Pour plusieurs, on trouve que c'est un concept qui est très abstrait. S'apporter Jésus, comme si Jésus serait tout le temps la solution à tout. Hein? C'est sûr que si je cherche une recette pour faire un bon pain, j'irai pas regarder dans l'Évangile. Comprenez l'idée. C'est un peu ça ici, là. Et on a posé les questions, toujours une façon concrète de se l'apporter, c'est de se rappeler ceci. Ce que nous faisons ici est toujours le fruit de ce que nous croyons être sur nous. Et ici, il y a une ligne qui est séparée entre le monde physique. Ça, c'est ce qui s'exprime dans le monde physique. Et tout ce qui est de ce côté-ci, de cette ligne imaginaire qui est là, est du domaine de la foi et du domaine de la croyance et du spirituel. Et ce que nous faisons, ben, vient exprimer ce que nous croyons que nous sommes, notre identité. Et ici, ben, la vérité de ce que l'on croit, elle est là et elle est exprimée dans ce que nous faisons. Donc, une façon concrète de s'apporter Jésus-Christ, c'est de prendre conscience de ce que nous faisons, de notre état d'être, de nos réactions, de nos sentiments, de nos émotions, de nos façons de voir la vie, de nos façons de réagir aux événements qui nous entourent et de les considérer, de voir qu'est-ce qu'ils révèlent par rapport à ce que je crois être vrai dans ma vie. Et par la suite, on continue. Si je crois ça sur moi, qu'est-ce que ça veut dire que je crois de ce que Dieu a fait? Et qu'est-ce que ça révèle que je crois réellement sur la personne de Dieu? Et ça, c'est une façon concrète de s'apporter Jésus-Christ. Parce que, en réalité, ce que nous sommes réellement découle de celui qui a toute autorité. Et c'est Dieu seul. Dieu nous a créés, nous appartenons à Dieu. Il nous a créés. Et ce que nous sommes réellement dépend de ce que Dieu déclare à notre sujet et non de ce que nous croyons à notre sujet. Donc, l'idée ici, c'est de partir de qui Dieu est. C'est quoi la vérité sur Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et ce que Dieu a fait découle de qui il est. Maintenant, dans ce qu'il a fait, qui moi je suis? Et ce que je suis, de quelle façon ça se reflète dans ce que je fais? Et de comprendre ces étapes simples-là nous permet de nous apporter l'Évangile au quotidien. On voit ce que l'on fait, on voit ce que nous sommes, on voit ce que l'on fait, on voit la vérité sur ce que nous sommes, on voit la vérité de ce que mon cœur croit, de ce que Jésus-Christ a fait et de qui Dieu est, et ainsi de suite. On a couvert ça d'une façon plus détaillée la semaine dernière, mais je croyais que c'était bon qu'on se rappelle ça ce matin parce que on s'en parle souvent. Mais de quelle façon cette semaine vous avez pu mettre ça en application dans votre quotidien? J'ai deux personnes. Vas-y, Brian.
Là, Lorraine, c'est une personne très organisée, comme vous le savez. Puis le fait de pas trouver son passeport, ça l'a vraiment ébranlé. Puis elle a perdu des heures de sommeil. Elle a viré la maison à l'envers. On a viré les garde-robes à l'envers, toutes les valises, tout. Puis, tu sais, là, la veille, là, elle trouvait pas, là. Puis elle met toujours à la même place. Puis bon. Puis l'affaire, c'est que pour en avoir un autre, faut que tu le déclares perdu. Mais quand tu déclares perdu, ben là, t'es mal pris, parce que là, faut que tu l'aies et un autre, un nouveau. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça l'ébranlait dans ce qu'elle était, parce que c'est une personne organisée, puis là, elle n'était pas là. Puis là, elle était, c'est sûr qu'elle craignait ma réaction, mais gloire à Dieu, moi, tu sais... Le Seigneur a tellement transformé mon cœur que je disais, garde, c'est pas grave si on y va pas. C'est pas grave parce que on a tout ce qu'il faut en Jésus, là. C'est sûr qu'on aimerait ça y aller. C'est sûr qu'on a... Mais si le Seigneur décide qu'on y va pas, on y va pas. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Oui, mais... Puis, tu sais, ça c'est merveilleux parce que c'est libérateur. Puis là, on peut, comme Lorraine a dit souvent, avoir la main ouverte, là. Dieu nous donne des choses, mais garder la main ouverte, parce que si on n'aurait pas Jésus, là, on aurait la main fermée sur notre semaine de vacances, puis on y tiendrait, mordicus, puis tu sais, garde, tu me feras pas perdre ma semaine, là, tu sais. Fait que, gloire à Dieu, qui nous sommes ses enfants chéris, ses enfants bénis, ça, comme Jean nous disait ce matin, là, c'est ça la source d'eau vive, là. Puis que tu l'aies perdu, ben gars, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Puis c'était une belle occasion de vivre ça, justement, là, l'Évangile.
On a des attentes, on veut aller voyage, on veut obtenir quelque chose de ça, on a besoin de ça. Mais là, ça se peut qu'on y aille pas.
Ouais.
Ça nous ramène à la réalité de ce que notre cœur recherche, de ce que nous croyons être vrai par rapport à moi présentement. Et de ramener la perspective à qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et Dieu, qui il est. Ben, on a tout en lui.
C'est ça.
Il s'est donné sa vie. J'ai déjà tout ce que j'ai de besoin à mon bien-être, à mon confort, à mon repos. Donc, pourquoi je mets tant d'espoir dans ce voyage-là?
Oui.
Qu'est-ce que ça témoigne de ce que je crois sur moi aussi?
Oui. Finalement, le Seigneur a permis qu'elle aille à nouveau, là, qu'on puisse y aller. Mais encore là, on disait, waouh! Merci Seigneur, t'es tout puissant, puis t'as permis qu'on y aille, puis gloire à Dieu.
Toute cette recherche-là a permis de révéler des choses par rapport à nos cœurs, et le fait d'y être attentif, ça l'a permis de voir cet état-là, c'est cet état qui est présent au profond du cœur, et ça l'a permis de s'apporter l'Évangile, de découvrir encore davantage de quelle façon l'Évangile a un impact sur mon quotidien. Oui, Robert. Oui, parce que sinon, les enregistrements, c'est difficile.
J'ai mais là, quand avec la musique,
j'ai pas beaucoup de fil. Avance, c'est temps. T'es obligé d'être sur le spot.
OK, donc, moi, c'est hier que c'est arrivé. Donc, c'est assez récent. Donc, j'étais en prière d'écoute et tout ça parce que je réalisais que ce que je fais, c'est que je cherche l'approbation des autres, des hommes. Donc, et tout ça amène que j'ai peur d'être rejeté, tout ça. Et là, ça m'a fait réaliser que je croyais des mensonges, que ce que je croyais, c'est qu'il fallait que je performe ou que pour être aimé. Donc, et ça, c'est quelque chose. Donc, faut chercher un bon garçon comme ça. Je vais être aimé. Donc, si je suis pas un bon garçon, je vais être rejeté, tout ça. Mm-hmm. Et c'est directement dans ça. Je pense que ça fait, quand il m'arrive des choses, j'essaie justement de faire leur cheminement inverse.
Ouais. Donc, de ce qui se passe, ça révèle quoi sur ton cœur?
Donc là, il y a un mensonge, là. Puis là, je me suis rappelé, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a accepté inconditionnellement. Il m'aime inconditionnellement. Je n'ai pas à gagner son amour. Et ça, c'est vraiment libérateur. Et ça découle de ce que Dieu est, justement.
Ça nous permet de mettre en lumière le mensonge.
Oui, exact. Et le remplacer par la vérité. Exactement.
De remplacer le mensonge par
la vérité. Je pense que c'est une façon de se prêcher Christ, de se prêcher l'Évangile.
Ça, c'est une façon vraiment concrète, pratique de tous les jours sur comment s'apporter Jésus-Christ.
Parce que quand ça va pas, ça reflète quelque chose dans nos cœurs, un mensonge qu'on n'a pas cru ou quelque chose qu'on croit qui est pas vrai. En tout cas, il y a plein d'applications. Puis je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'aller vers Dieu avec ça. Parce que juste par notre intellectuel, ça marche pas. Il faut vraiment s'abandonner à Dieu puis dire, ben Seigneur, là, je vis ça. Là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce qui m'empêche justement de recevoir ton amour inconditionnel?
Ouais.
Parce que c'était ça, je voyais que je croyais à maman, mais qu'est-ce qui m'empêche? Mm-hmm. Ben, c'est que ça découle de ce que j'ai cru dans ma vie, puis tout ça.
C'est merveilleux de voir quand on le fait avec Dieu, quand on le vit avec Dieu, de voir la réponse
que
Dieu donne.
C'est pas intellectuel, hein?
C'est vivant.
C'est vivant, c'est ça.
C'est vraiment vivant. Dieu se manifeste à toi, à ton cœur, et il te rappelle la vérité de l'Évangile. Mm. Il te rappelle ce qui se trouve dans les Écritures. Mais le fait de se le rappeler, de se le faire rappeler personnellement dans ce qu'on a de besoin, tu peux le déposer là, de se le faire rappeler personnellement dans ce que j'ai de besoin maintenant, ça fait que la vérité, elle est mienne. Elle est personnelle à moi. Elle est pour moi. C'est pas juste une vérité quelconque qui fait partie d'une philosophie, d'un ensemble. Non, elle m'est apportée par Jésus-Christ. À moi, dans des mots que j'ai besoin, dans des mots que je vais comprendre et appliquer à ma réalité. Pourtant, ça peut être tellement abstrait, ça, porter l'Évangile, mais on se constate quand on comprend réellement c'est quoi l'Évangile, l'élément de toute notre identité, de qui Dieu est et toutes ces vérités fondamentales qu'on creuse depuis longtemps, on est en train de se rendre compte qu'en réalité, ça, porter l'Évangile, c'est très concret. C'est très, très, très concret. C'est pas abstrait. Et l'Évangile, elle est puissante. L'Évangile, c'est puissant, ça transforme nos vies, ça transforme nos cœurs. Et de se l'apporter réellement, là où elle est efficace, ça fait toute la différence. Parce que souvent, on entend dans les églises, on le dit souvent, l'Évangile est la solution, Jésus-Christ est la solution. Puis on l'emploie à toutes les sauces, on l'emploie à tout bout de champ. Et puis, les gens arrivent, entendent ça, c'est bien, OK, je vais essayer l'Évangile, je vais mettre l'Évangile dans ma vie, je vais me conformer à ce que la Bible dit, je vais appliquer ces principes-là dans ma vie, et je vais m'attendre que ça marche. Je vais m'attendre que ça fonctionne. Oui, c'est une religion. Mais quand la première fois, souvent, quand on entend l'Évangile, c'est à ça qu'on pense. On vient puis on dit, je vais essayer cette recette-là, comme j'en ai essayé d'autres avant. Il y en a d'autres des recettes. Il y a le bouddhisme, il y a l'islam. Il y a l'hindouisme, il y a nommez-en, il y en a plein, des sectes, des d'autres croyances, il y en a plein, et les gens vont les essayer, sont déçus, reviennent, trouvent pas ce qu'ils cherchent, et là, ils décident finalement d'essayer l'Évangile. Et l'Évangile a toute qu'une prétention. A la prétention d'être la seule solution viable. A la prétention d'être l'absolu des solutions. Pour t'apporter quoi? Ben, ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on dit aux gens que l'Évangile va leur apporter dans leur vie? La vie, la paix, la joie, l'abondance du cœur, ça va apporter quoi aussi? La santé, ça peut être ça aussi, la prospérité pour plusieurs, dépendamment de quel Évangile tu présentes. Hein? Des réveils spirituels. Donc, on en met épais là, sur ce que l'Évangile doit délivrer dans la vie des gens. Vraiment, hein? Et puis, souvent, ben là, après certains temps, on est tous plein de volonté, plein, plein de bon vouloir et on applique, on creuse, on lit, on applique, on fait des efforts, on réussit, on échoue, on réussit, ben là on échoue trois fois après. C'est difficile. Et là, après 10, 15, 20, 30 ans, on finit comment? Essoufflé, désillusionné, ça fonctionne pas. L'évangile, ben, ça marche pas. Et c'est dur à avouer parce que ça fait 20 ans qu'on essaye, ça fait 20 ans qu'on dit à tout le monde qu'on est convaincu, ça fait 20 ans qu'on la présente comme on nous l'a présenté, et ça fait 20 ans que je lutte avec les mêmes choses. J'ai encore de l'anxiété dans ma vie, j'ai encore du stress, j'ai encore peur de tout. J'suis encore menteur. J'essaie de projeter aux autres que je suis heureux, mais en réalité, je me sens seul, je suis triste dans mon cœur. Je suis fatigué, épuisé, écœuré, à bout. Je suis sur les antidépresseurs. C'est pas moi, là. Je vous le dis. Je suis sur les antidépresseurs et ainsi de suite. Mais on essaye de dire ça va quand même bien parce que j'ai l'Évangile. À un moment donné, là, quand une personne, après avoir vécu tout ça, tout ce temps-là, ou voit ça autour de lui, puis à un moment donné, le réalise, ben, il dit quoi? C'est absurde, c'est de la folie. Et là, il se sauve. Non seulement, il est plus juste indifférent à l'Évangile et à Dieu, il est fâché contre. Il est hostile à l'Évangile. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a eu un post sur Facebook. Une chrétienne que je connais qui est à Montréal présentement, elle a pris en photo un message qui a été écrit sur le mur de l'autobus. Et ça l'envoyait littéralement promener Dieu en disant que Dieu faisait rien, que Dieu qui était pas présent, qui se foutait de lui littéralement. Et c'est ça qui est écrit. Pourquoi une personne peut en arriver à croire ça quand l'Évangile, oui, c'est vrai, c'est la solution. Mais c'est vrai que l'Évangile, c'est la solution. C'est vrai que l'Évangile t'apporte la joie, t'apporte la paix, la liberté. C'est vrai tout ça. C'est ça qui arrive, c'est que c'est pas des mensonges. La Bible le dit, Dieu le dit aussi. Il dit même qu'on est supposé trouver une famille. On a les églises les plus individualistes au monde, j'en suis convaincu, au Québec. Ben, on est une famille, on est très heureux, on prend le repas du Seigneur ensemble tous les semaines. Non, pas tous les semaines, une fois par mois. Pas trop quand même, hein? Faut pas trop, sinon ça serait pas bon de trop communier, tu sais. Ça coûte cher aussi, c'est vrai. On demandait à quelqu'un de nous faire une miche de pain, puis j'apporte le jus de raisin la semaine prochaine. Richard, une bonne recette? Non, mais... Bernard aussi a fait du bon pain, ah oui. Hey, tu vois, ça... Hey, la gang de même, là, semaine à l'autre. Non, mais, comprenez, c'est vrai que l'Évangile est tout ça. C'est vrai. C'est la vérité. Mais, il y a des raisons pour lesquelles les gens partent puis sont hostiles à l'Évangile. Il y a des raisons pour ça. Et moi, je suis convaincu qu'une de ces raisons-là, c'est parce qu'on ne s'apporte pas réellement à l'Évangile. On ne s'apporte pas le vrai Évangile. Pas là où elle doit aller. Quand on apporte l'Évangile, souvent, en tant qu'être humain, notre focus va souvent sur les choses qui sont à faire. On focus maintenant sur ce rond-là, ce que nous faisons. OK? Je décide de croire ce que Dieu dit être vrai sur moi, sur tout ça, ce qu'il a fait, c'est bon, je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, après qu'on a donné notre vie au Seigneur, on focus sur ce que je dois faire maintenant pour refléter ce que je crois. Et en même temps, ça a un but de me convaincre que je le crois vraiment. Parce que dans les Écritures, ça dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, si je dis que je suis croyant puis je veux pas compter de mentir, ben il faut que j'aille des fruits. C'est quoi les fruits? Ben là, je regarde dans les Écritures. Et j'essaie d'appliquer, parce qu'il y en a des listes. Il y en a. Dans 1 Pierre qu'on a étudié, on en a vu des listes. Puis la barre est haute en temps. Et ça devient du moralisme. Le moralisme, c'est notre propre effort pour faire ce qui est bien, avoir une bonne morale et mériter la grâce de Dieu quelque part. Hein? Il y a l'élément de mérite dans ça. Et ça donne, c'est la racine à bien des problèmes, à bien des maux dans notre vie. C'est la racine, ce moralisme-là, à l'inefficacité de l'Évangile. Parce que c'est appliquer l'Évangile sans la puissance de l'Évangile. C'est qui la puissance de l'Évangile? C'est Jésus-Christ. On pointe Jésus, avant qu'ils deviennent au Seigneur, puis une fois qu'ils ont accepté ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, maintenant on les pointe vers la discipline spirituelle. Maintenant, tu dis croire, ben montre-moi-le par ta vie, dans la façon dont tu marches. Et on est très focusé là-dessus, trop, vraiment, et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est l'endroit où l'Évangile doit être appliqué. Et c'est difficile, parce que c'est à quel endroit l'Évangile doit être appliqué dans nos vies? Dans nos cœurs. Qui ici est à l'aise d'exprimer et de révéler ce qui se passe dans leur cœur? Tantôt, Robert, il l'a fait. Oui, c'est édifiant hein, ce que notre frère nous a partagé. Et je vous dis, ça, c'est le fruit du travail du Seigneur dans le cœur de notre frère. C'est miraculeux. Parlez-en, Lourdes. Hein? C'est le jour de la femme aujourd'hui. On va l'avoir mentionné. Mais souvent, les femmes ont une tendance beaucoup plus naturelle à exprimer ce qui se trouve dans leur cœur. Je veux pas généraliser, mais d'une façon générale, les femmes ont une facilité d'aller dans cette profondeur. Et elles sont une bénédiction pour l'homme. Parce que je suis convaincu que Dieu a donné les femmes aux hommes dans le but d'emmener les hommes dans cette profondeur-là de leur cœur. Elles sont une bénédiction dans la vie des hommes pour aller justement dans ce domaine-là de leur cœur. Et trop souvent, on les méprise, on les rejette. Quand elles veulent nous emmener là ou quand elles courent après nos cœurs, elles nous rejettent. On les rejette. À cause de quoi? Ça fait trop mal. C'est dur aller là. C'est très dur. Et c'est tellement difficile qu'on essaie d'appliquer l'Évangile partout ailleurs, sauf là. Et on essaye fort, pendant longtemps. Et si on n'applique pas l'Évangile là où elle est faite pour être appliquée, on perd notre temps. Vraiment qu'on perd notre temps. Puis pour exprimer cet élément-là, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Hébreux. Je vais y aller rapidement, il est déjà 11h30. Vous n'êtes pas pressés, hein? Thank you. vers le matérialisme. Mm-hmm. Écoute, c'est un des éléments, mais toutes ces choses-là, c'est des symptômes. Toutes ces choses-là, honnêtement, la façon dont le monde vit aujourd'hui, c'est le reflet de ce qu'ils croient être vrai sur eux. Et c'est le reflet de ce qu'ils croient, de ce que Dieu a fait et de qui Dieu est. L'être humain ne peut pas se séparer de ce système-là. L'être humain a des croyances. C'est inévitable. Tout le monde a la foi. C'est la question, tu as la foi en quoi? Et les gens vont mettre leur espoir dans tout plein de choses autres que Jésus-Christ, et le matérialisme est une solution. Le matérialiste est un moyen. Tu vas dans un autre pays, ça va être d'autres choses. Mais chez nous, c'est la consommation, le matérialisme, la carrière. Il y a plein d'autres façons que le cœur humain essaye d'assouvir à l'intérieur de lui. Et c'est à ce moment-là que l'Évangile vient faire une différence. Quand on comprend réellement l'Évangile, on peut pas appliquer l'Évangile comme on applique une autre solution. Je peux pas utiliser l'Évangile dans ma vie comme j'utilise le travail pour me définir. Le travail va me définir en fonction de mon mérite, en fonction de ma réussite et de mon échec. Et l'échec aussi va me définir. Fait que les gens ont une peur bleue de perdre le job. Les gens ont une peur bleue de pas être performants. Ils ont une peur bleue de leurs collègues. Parce que leurs collègues, qu'est-ce qui va arriver? Si lui réussit mieux que moi, je vais paraître comment? Et mon identité, ça révèle ce qu'ils croient être vrai sur eux. Et ce qu'ils croient être vrai sur eux dépend des circonstances. Et le fait qu'on ne contrôle pas les circonstances, mon ami, mais là, ça part en vrille. C'est fini, là. L'anxiété, le stress, l'insécurité, c'est infini. Comme exemple, tantôt, le voyage de Brian, là, c'est j'aurais pas mon voyage. J'aurais pas ce que je mérite, je me reposerais pas, c'est inacceptable. Et la vie, puis là tu pars, puis t'es en colère. Tu peux être en colère contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été indiscipliné, j'ai manqué, j'ai perdu mon passeport, j'ai eu un manquement, je suis insuffisant, je suis pas bon, et là il va y avoir des conséquences. C'est une autre façon de le voir. Insignifiant, j'ai perdu mon passeport. Puis là, tout ce que ça révèle, ce que tu crois être vrai sur toi. Et ça, c'est vrai pour tout être humain. On ne peut pas se soustraire à ça. Et c'est pour ça que si on essaie d'appliquer l'Évangile de la même façon qu'on applique tout ça, l'Évangile va être sans puissance. Parce que, regardons Hébreux. Ça va nous donner une piste dans Hébreux. Et on va commencer au verset 7. Hébreux est très intéressant parce que c'est Paul. Hébreux chapitre 3, excusez, merci. Hébreux 3. Hébreux est intéressant parce que Paul il s'adresse spécialement aux Juifs et il est en train d'exprimer aux Juifs de toutes sortes de façons que toute la loi, tout l'Ancien Testament, tout leur rituel de vie est le reflet de quelque chose. Et tout ça, c'est le reflet de Jésus-Christ. Pourquoi aller vers le reflet quand on peut aller à la source? Et c'est ça, Hébreux. Et il parle de la foi, il parle de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ est au-dessus de toute la loi, comment Jésus-Christ est plus grand que Moïse, et ainsi de suite. Et au verset 7, il dit ceci, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, » Tu peux mettre l'autre PowerPoint, s'il te plaît, Maurice. Verset 7, je l'ai perdu. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. » Puis là, il va citer un psaume. Il va citer le psaume 95, c'est ça. Il va citer le psaume 95. Il dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, au verset 12, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pour vous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et il continue. Je pense que le point est déjà exprimé ici, dans le peu qu'on a lu de ce passage. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en réalité ici? Il dit, n'endurcissez pas quoi? Vos cœurs. Pourquoi? N'endurcissez pas vos cœurs. Le cœur, là, est à l'origine de ce que l'on croit être vrai sur nous. C'est lui qui exprime tout ça. Et on voit dans le passage à quel endroit Dieu nous parle. Dans notre cœur. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, il cite l'Ancien Testament pour les gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez que Dieu vous parle, que Dieu vous appelle, que Dieu adresse quelque chose dans votre vie, que Dieu veut adresser quelque chose dans votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et je pourrais passer le reste de l'après-midi à vous parler juste de ça. Ça amène plein de choses, mais moi, aujourd'hui, je peux pas sauver le monde. Mais moi, j'ai une décision pour moi aujourd'hui. J'ai une décision tous les jours pour moi. Quand j'entends la voix de Dieu qui m'appelle, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il me dit? Et ici, il met un avertissement. Non, ne fermez pas, n'endurcissez pas votre cœur. On veut tout régler avec notre tête. On veut tout comprendre avec notre tête. Mais on peut pas comprendre et appliquer l'Évangile ou ce que Dieu nous dit avec notre tête. Parce que quand on fait ça, on endurcit notre cœur. Parce que Dieu, là, il va tout faire pour prendre ce qu'il te dit et le descendre dans ton cœur. Dieu a compris que d'aller ailleurs, ça sert à rien. Et nous, on a compris que quand on va là, ça fait mal. Donc, on est en lutte contre Dieu. Comme le peuple d'Israël a été en lutte contre Dieu. Et ça leur a amené des conséquences dans leur vie. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert et c'est à ça que ça fait référence. Et malgré le fait qu'ils ont été en présence de Dieu pendant ces 40 ans-là dans le désert, arrivé à la fin, il y avait encore le cœur rebelle au Seigneur. Et là, Dieu les a eus en aversion. Il a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et ce repos-là, à laquelle il fait référence dans l'Ancien Testament, c'est d'aller dans le pays de Canaan et de vivre dans ce pays-là en appliquant la loi, c'était de vivre dans la présence de l'Éternel. Le repos de Dieu pour cette époque-là, c'était de rentrer dans le pays, un endroit où il aurait pu vivre en présence de Dieu en permanence. Un lieu saint, un pays saint parmi une nation sainte. Mais c'est à nous qui parle aujourd'hui. Si on veut rentrer dans le repos de Dieu, on pourrait continuer à lire le reste, verset chapitre 4, mais là, le temps avance. Chapitre 4 s'adresse directement à nous aujourd'hui. Et il continue sur cette image-là de ne pas endurcir notre cœur quand Dieu nous parle, de laisser, d'écouter la voix de Dieu agir dans notre vie, de la laisser descendre et faire son œuvre. J'aimerais qu'on aille tout de suite au chapitre 4, verset 11, qui dit ceci. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Et le repos qui est là, là, c'est un repos, puis il démontre, c'est de rentrer. Les œuvres sont accomplies. Ça fait référence au septième jour de la création de Dieu. Le septième jour, Dieu est rentré dans un état de repos. Ça veut dire que sa création était terminée. L'œuvre de création était terminée. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit plus. Ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille plus. C'est pas que maintenant je suis rentré dans le repos de Dieu, parce que j'ai mis ma foi en Dieu, maintenant je peux m'asseoir et ne faire que profiter. Non, on est appelé à un travail. Mais le repos qui est question ici, là, c'est que l'œuvre est accomplie. Je me tiens dans la présence de Dieu maintenant, aujourd'hui. Je suis dans le repos de Dieu. Je suis dans sa présence. Et tout est accompli. Si tout est accompli, je n'ai rien à faire pour mériter d'être dans la présence de Dieu. Tout est accompli. Donc, il nous invite à rentrer dans le repos de Dieu. C'est « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et il dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il est en train de dire ici que l'Évangile est vivant et que l'Évangile pénètre. Pénètre où? Elle est active où? Cœur, 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 partout c'est le cœur. Et l'Évangile est vivante dans le cœur. Dieu nous parle dans le cœur. Il nous dit de ne pas endurcir notre cœur à sa parole parce qu'il nous parle dans notre cœur. Mais c'est tellement difficile. C'est la folie de l'homme de vouloir prendre l'Évangile et de ne pas vouloir l'appliquer là où elle est puissante et efficace. Dans mon cœur. On perd notre temps si on fait autre chose que ça. S'apporter Jésus-Christ, c'est très concret. C'est très concret quand on parle de cœur, quand on révèle notre cœur, quand on est prêt à ouvrir notre cœur, quand on est prêt à mettre notre cœur à nu. L'Évangile est très concrète. Mais il faut être prêt à faire ça. Et Dieu nous appelle à ouvrir notre cœur à sa voix. Accueillir ce qu'il y a à nous dire là où ça fait vraiment un impact. Et c'est ça qui est notre défi. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'apporter l'Évangile et puis de se brasser les uns les autres puis de dire « Hey! Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? » Je veux pas comprendre les circonstances, je veux comprendre ce que tu vis dans ton cœur qui t'a emmené dans les circonstances. Parce que, mec, tu veuilles me révéler ça, je veux pouvoir, par amour, avec amour, t'apporter Jésus-Christ. Oui, Lourdes. Le micro. Toujours. T'es obligé.
Mais c'est un endroit que c'est difficile à les connaître. Que si on s'arrête pas à vraiment voir qu'est-ce que je ressens, quel sentiment, pourquoi, sinon on pourra pas les connaître. Même pour nous, si quelqu'un me demande, au début, quand je suis allée faire les sentiers, ils m'ont demandé, c'est qu'est-ce que tu ressens? Je savais pas quoi leur répondre, j'étais pas habituée à aller voir qu'est-ce que je ressentais.
Pourtant, tu étais chrétienne, ça faisait longtemps.
Oui. Alors, le cœur, c'est quelque chose qui on n'est pas habitué à l'écouter, à le voir, à ressentir, à savoir, pourtant, mais si on s'arrête, il nous actionne. Ça a été une pratique pour moi, ça a été un chemin.
Il s'est
encore caché des fois.
Mais oui.
C'est encore caché, c'est quelque chose qui se cache, et aller le voir. Mais si on décide, si on a vu, j'ai expérimenté les bienfaits de faire ça. Et c'est pour ça que maintenant, je l'ai fait de façon intentionnelle. Mm-hmm. Et de façon, je suis libre de pas me sentir accusée d'aller voir. Si j'ai pas cette culpabilité ou accusation, c'est plus facile d'aller voir. Mais c'est un, C'est quelque chose à...
C'est un travail quotidien. On a besoin les uns des autres. Et on a besoin du corps de Christ qui nous amène là. Ça sert à rien de s'emmener ailleurs. Ça sert à rien de se poser d'autres questions que ça. Ça sert à rien. Ça le vaut être sage aux yeux des hommes. Moi, j'apporte des solutions. Je sais pas. Non, c'est du vent. T'es en train de pointer autre chose que Jésus-Christ. T'es anti-Christ en faisant ça. Et c'est un apprentissage. Et on a besoin de s'y exercer parce que c'est tellement pas naturel pour le cœur humain. Merci, Lourdes, de nous partager ça. Oui? C'est plus facile pour une femme, puis elle a eu besoin de l'apprendre. Mais on a besoin les uns des autres. Et Jésus-Christ, la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, Dieu nous fait tout en son pouvoir pour nous dire, vous n'avez rien à craindre de le faire. Vous n'avez rien à craindre d'ouvrir votre cœur. Vous n'avez rien à craindre. Juste pour vous donner une idée de ça, facile, facile, lisez Romains 8. Tout ce chapitre-là est structuré pour nous sécuriser d'aller ouvrir notre cœur et de l'exposer à Dieu. Allons dans la prière.